Maghrébine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Des ribines gourmandes cette semaine autour d'un mets bien breton et bien rond qui a les honneurs de plusieurs expositions en Bretagne. Vous aurez reconnu la crêpe. À l'écomusée des Monts d'Arrée, au moulin de Carouat à Comana, on a décortiqué les crêpes de la matière première qui naît du travail de la terre jusqu'au phénomène économique local en tout cas. Nous allons suivre Brendan Petit qui est chargé de médiation de l'écomusée.
Notre exposition qui s'appelle Bleudzo Krampouezvo, un titre en breton, qui vient d'une expression qu'on trouve beaucoup ici dans les Monts d'Arrée. Donc Bleudzo Krampouezvo, il y a de la farine, il y aura des crêpes. Donc c'est vrai que nous, on va aborder l'aspect à la fois professionnel de la crêpe, comment est-ce qu'il va y avoir une professionnalisation du métier de crêpière, et également tout le lien fondamental entre la production de crêpes et le milieu agricole, c'est-à-dire comment au fil des siècles, en gros à partir du milieu du 19e, il va y avoir une évolution des cultures dans les Monts d'Arrée, une différence aussi selon qu'on soit côté Léon de la ligne de crête ou côté Cornouailles, donc côté nord ou côté sud, et puis également l'évolution finalement des modes alimentaires qu'on va trouver dans les Monts d'Arrée.
C'est quel laps de temps, quelle période que vous examinez en fait ?
Alors en gros, on va partir du milieu du 19e siècle, puisque c'est la période à partir de laquelle on commence à avoir une professionnalisation du métier de crêpière. Du moins, c'est à partir du moment où on a trouvé en fait à Brasparts dans les registres une notification du métier crêpière, quoi, comme métier déclaré, quoi, au milieu du 19e. Alors rien à voir avec ce qu'on peut imaginer aujourd'hui au niveau des crêperies, mais effectivement on est parti de cette date-là. Et puis c'est également une période où il va y avoir des transformations au niveau agricole. C'est une période aussi où les cultures vont évoluer. Donc on pensait que c'était intéressant de prendre ce point de départ-là. Et puis en gros, on va aller jusqu'après-guerre.
Ce qu'on appelle la crêpe des Monts d'Arrée, ou les crêpes, je ne sais pas, il y a peut-être plusieurs types. C'est quoi ? C'est blé noir, froment, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors la crêpe, justement, c'est une grande question. Hein. C'est pour ça qu'elle a été soulevée par plusieurs musées et qu'on a choisi de travailler dans le cadre d'une coopération à l'échelle régionale, puisque c'est vrai que la crêpe, c'est un... Tout le monde connaît la crêpe, et lorsqu'on parle effectivement de... Lorsque les touristes imaginent le régime alimentaire des Bretons, souvent, lorsqu'on leur demande, la première chose qui vient, c'est la crêpe, quoi. Et c'est vrai que maintenant, la crêpe est devenue, j'allais dire, presque un symbole de l'alimentation bretonne. On en retrouve partout dans le monde, hein, finalement, des crêperies, du Japon jusqu'aux États-Unis, effectivement, il y a des crêperies partout, quoi. Après, la crêpe en tant que telle, c'est ce qu'on va trouver, c'est-à-dire finalement une sorte de plat, j'allais dire, fait à partir de farine, de différentes céréales, ou non céréales d'ailleurs, puisque le blé noir, le sarrasin n'est pas une céréale. Mais on en retrouve aussi partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on va trouver les pancakes dans les pays anglo-saxons, on va trouver les blinis, on va trouver... Ouais,
les faritas,
voilà, tout ça peut être fait à partir de maïs, d'avoine. Donc ce principe-là, c'est un principe, j'allais dire, universel et très très ancien. Hein. Ça, on va en retrouver partout dans le monde. Nous, on a voulu se reconcentrer donc là, au niveau Bretagne. On est 5 musées à avoir participé à cette opération, c'est-à-dire le musée de l'abbaye de Landévennec, de l'ancienne abbaye de Landévennec, où on a retrouvé justement d'anciennes biliques qui dataient du Moyen-Âge. Les archéologues ont retrouvé des traces de biliques. Il y a eu des analyses scientifiques qui ont été faites pour voir un petit peu à partir de avec quelle matière grasse ça pouvait être cuit, etc. Donc il y a eu tout un gros travail scientifique qui a été fait là-dessus. On va trouver le musée Bigoudin également.
Donc, à Pont-l'Abbé.
À Pont-l'Abbé, tout à fait, ouais. Le musée départemental breton, à Quimper également, hein, qui s'est joint à l'opération. Nous, à l'écomusée des Monts d'Arrée. Et puis, le musée de Dinan également, pour pouvoir trouver justement l'aspect plus galette, j'allais dire, hein, puisque on voit qu'on a une grosse majorité quand même de représentants de la Basse-Bretagne, et puis on a quand même la Haute-Bretagne qui est représentée par Dinan. Et c'est pour ça que la coopération s'appelait, êtes-vous crêpe ou galette ? Qui montre bien un petit peu aussi cette opposition, mais cette différence qu'on va trouver entre la Basse-Bretagne et la Haute-Bretagne, même dans la terminologie, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que pour nous, ici en Brézizel, en Basse-Bretagne, on dit tout est crêpe, quoi. C'est-à-dire que ce soit fait avec du sarrasin ou avec du froment, ça va être une crêpe.
Mais il y a peut-être des crêpes quand même spécifiques des Monts d'Arrée, où il y a plus de blé noir, ou je sais pas.
Enfin, alors, il n'y a pas de recette spécifique aux Monts d'Arrée. Par contre, c'est vrai que chacun, en général, à sa recette. Par contre, on verra les différences au niveau des cultures, effectivement, quoi. On va avoir les cultures de blé noir. Le blé noir, notamment, va bien pousser dans les Monts d'Arrée, puisque c'est une plante, c'est une polygonacée, là, qui pousse poussent bien sur des terres assez pauvres et acides. Et c'est le cas justement des terres des Monts d'Arrée, quoi.
Comment est-ce que vous avez découpé l'exposition ?
On a en gros quatre sections principales. La première section va exposer, alors déjà faire une présentation générale, et puis va exposer l'évolution des cultures dans les Monts d'Arrée et le lien fort justement entre travail de la terre, culture et mode alimentaire. Donc progressivement, on va aller vers la crêpe, mais on passera aussi par les différentes étapes de la culture et puis des autres alimentations, types d'alimentation qu'on va trouver énormément dans les Monts d'Arrée et en Basse-Bretagne en général. Ensuite, on aura une section qui va être dédiée au rapport à la meunerie, justement, puisque Bleuzo Campoesvo, pour avoir des crêpes, il faut avoir de la farine. On aura tout un passage comme ça sur le lien avec les moulins et l'évolution aussi des moulins vers les minoteries. C'est-à-dire, on va avoir une modernisation à la fois dans les cultures, mais aussi une modernisation dans les processus pour faire de la farine. Et donc, voilà, le passage vers la minoterie.
Il faut rappeler quand même que l'écomusée, Moulin de Kerouat, c'est un moulin.
Voilà, tout à fait. Ouais, donc, l'écomusée des Monts d'Arrée est sur deux sites, la maison Cornac qui est à Saint-Rivoil, et puis les Moulins de Kerouat, donc à Comana. Donc, effectivement, vu qu'on est sur un site de paysans meuniers, il était évident que nous allions aussi aborder cet aspect-là. Une autre section sera dédiée justement à ce dont on parlait tout à l'heure, à la professionnalisation du métier de crêpière. Comment est-ce que finalement on passe de quelque chose qui pouvait être fait à la maison de manière presque domestique à progressivement quelque chose qui va pouvoir s'apparenter à un métier. Voilà, c'est donc en gros à partir de la moitié du 19e siècle, on va voir que ça va être utilisé à l'occasion donc des pardons, des fêtes, etc. Et puis progressivement, il y a aussi d'autres éléments qui vont se rajouter. Et une dernière partie du coup sera consacrée à Jacques Burel, en fait, l'artiste. Donc on a reconstitué reconstituer la maison de sa marraine et grand-mère qu'il a décrit très bien dans un texte. Il l'a peint déjà, bien sûr, et puis dans un texte également où il présente sa maison dans laquelle elle faisait des crêpes, justement. Donc on a essayé de créer un petit espace complètement immersif comme ça, retraçant la maison de sa marraine.
Parce qu'il était où ? Lui, il était basé où ?
Alors lui, il est issu d'une famille originaire de Carnevel, à côté de Rospordin, mais sa famille a déménagé du côté de Landivisiau, donc dans le Léon. Hein, et là, il décrit effectivement la maison de sa grand-mère.
Alors commençons la visite et partons du terroir des Monts d'Arrée.
Bon, rapidement, dans cette première section, effectivement, ça va être celle, on l'a dit, qui était davantage dédiée aux récoltes et aux cultures. Et on trouve intéressant de comparer l'évolution du Léon, l'évolution de la partie Cornouaille des Monts d'Arrée. C'est-à-dire que dans le Léon, très tôt, on va trouver, un peu encore comme aujourd'hui, des parcelles un petit peu plus grandes. Et en Cornouaille, des champs un petit peu plus réduits, avec des cultures un peu différentes. Alors, on a fait une étude comparative des cantons de Saint-Égonec, Cizun, Le Guelgoit et Plébin. Et on s'aperçoit qu'au niveau du Helgoat et de Plébin, il va y avoir un développement, par exemple, du seigle davantage. Le seigle qu'on utilisait beaucoup pour faire le pain. Autrefois, c'était souvent des pains de seigle qui n'étaient apparemment, dans les témoignages qu'on a pu récolter, qui n'étaient pas très, très appréciés pour leur goût. On voit assez vite que le froment se développe. Et puis, on parlera aussi de l'importance de l'avoine. L'avoine qui était fondamentale et centrale vraiment dans l'alimentation paysanne dans le Monts d'Arrée, mais partout en Bretagne.
Et on l'a consommée surtout en bouillie.
La fameuse yeux de Caire, quoi, qui était consommée en bouillie, effectivement, ouais. Qui était un élément central de l'alimentation paysanne. Donc on va avoir une batteuse, on a une secoueuse de paille, etc. Tout ce qui va pouvoir permettre, en fait, au final, de passer des gerbes de blé ou autre, de récupérer en fait, du grain, qu'on exploitera ensuite, on le verra après, avec le développement des moulins et de la meunerie. Alors on a récupéré pas mal d'anciens films également qui montrent comment se passaient les récoltes. On travaille beaucoup avec la Cinémathèque de Bretagne, donc c'est vrai que c'est une source inépuisable, j'allais dire, et on retrouve vraiment des trésors qui nous permettent de témoigner et puis d'expliquer comment ça pouvait se passer.
Il n'y avait pas de bon pain.
Voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, là, une citation qui dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de bon pain, donc les gens faisaient des crêpes ». Voilà, tout s'explique, effectivement. Et ça, ce sont des collectages donc d'une dame qui est née en 1937, à Lannédern, et qui a été collectée en décembre 2019. Donc vous voyez, ce sont des éléments, un collectage récent, mais d'une expérience qui nous est précieuse, parce que ça nous permet aussi d'avoir un point de vue vraiment vivant de quelqu'un qui a vécu cette époque-là. Ici, effectivement, là, on arrive dans une section où on expose un petit peu plus justement ce dont on parlait tout à l'heure sur la bouillie d'avoine. On l'a dit, qui était vraiment centrale dans l'alimentation paysanne. Et c'est vrai, l'avoine qui est vraiment un aliment très riche. Et d'ailleurs, l'avoine, c'est assez rigolo parce que c'est pas mal tombé en désuétude, notamment après-guerre, parce que c'était perçu comme quelque chose un peu de... pour les pauvres, quoi. Et c'est, d'ailleurs, le sarrasin a subi un petit peu le même sort, quoi. C'est-à-dire qu'on voyait ça de manière un petit peu... en disant, bon, c'est une alimentation un peu pauvre, quoi. Et c'est revenu un peu à la mode depuis une dizaine d'années, notamment chez les sportifs, parce que beaucoup de sportifs consomment beaucoup d'avoine, puisqu'on s'est aperçu que voilà, c'est un aliment très riche, très bon pour la santé, anti-cholestérol, etc. Donc c'est vrai que, comme quoi, les anciens aussi avaient de quoi tenir leur journée grâce à ce type d'aliment.
Ah, vous avez une collection de biliques. Pourquoi ils disent la pilique ? C'est sans la mutation, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais. C'est la pilique, en fait.
Quand il n'y a pas l'article,
voilà,
on dit pilique.
Voilà, arbilique, ouais. C'est le terme breton pour... je crois que en Haute-Bretagne, ils appellent ça une crêpière, du coup. Mais c'est vrai que nous, on utilise le terme de bilic, ouais, pour ces grandes plaques qui servaient à faire les crêpes. Alors, on s'aperçoit aussi que ce sont des biliques qui ont quand même un diamètre assez conséquent, hein, pour la plupart. Donc,
les plus grandes, c'est combien, là ?
C'était... Oh, alors, certaines, là... On en a qui vont jusqu'à 50 cm, effectivement. Donc.
Il y a une citation marrante, là. « Noire comme le diable, ronde comme la culotte de mon oncle et plate comme la bourse de mon père. »
Voilà.
Sauf qu'elles ne sont pas toutes noires, en fait.
Non, mais en fait, c'est vrai qu'une fois qu'elles sont culottées et puis qu'elles sont très utilisées, elles ont tendance à devenir assez noires. Toutes celles-là sont en fonte. Alors après, on en a retrouvé dans d'autres matières, mais... dans d'autres matériaux, mais c'est vrai que là, on est vraiment avec l'outil de base pour pouvoir faire des crêpes, quoi. Ouais. Alors, ici, juste un petit mot rapide sur cet élément qui est là. On a mis une grosse arracheuse de pommes de terre pour parler un petit peu de cette diversification des cultures dont on parlait tout à l'heure et du développement, en fait, des modes alimentaires aussi autour de la pomme de terre. Parce que c'est vrai qu'au 19e, par exemple, les hommes mangeaient très peu de patates. Les pommes de terre étaient cultivées, étaient données plutôt aux animaux. Et en fait, c'est très tardivement, début du XXe siècle, qu'on va commencer à consommer de la pomme de terre en s'apercevant que c'était très riche également et puis que ça permettait de bien tenir la journée. Et on voit là qu'il y a une diversification au niveau... au niveau européen, puisque par exemple en Irlande, on sait que justement les Irlandais consommaient principalement de la pomme de terre au 19e siècle, et que la grande famine en Irlande du milieu du 19e est due au mildiou, la maladie de la pomme de terre, alors qu'ils cultivaient aussi du blé, mais le blé était exporté par le Royaume-Uni, par la couronne, et donc effectivement le fait qu'ils ne consommaient que de la pomme de terre, a malheureusement généré la grande famine, quoi, en Irlande. Donc on voit que eux consommaient de la pomme de terre, nous assez peu. On consommait effectivement plus, l'avoine, hein, on l'a dit, était vraiment centrale là-dedans.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'outil spécifique au traitement du sarrasin, si, il y en a.
Pour la culture ?
Ouais.
Pas spécifiquement, on va retrouver à peu près la même chose que pour le blé ou pour le seigle. Mais...
Ah oui, ça fonctionne, la batteuse, ça fonctionne aussi pour le sarrasin.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on ne va pas trouver des arracheuses comme pour les pommes de terre, comme ceci, quoi. Juste un mot rapidement sur ce petit passage de l'exposition qui est, enfin petit avec quelques éléments assez imposants tout de même, qui a pour but de montrer aussi la route vers la mécanisation des crêpes, puisque c'est vrai qu'on imagine la crêpière sur sa bilique en train de tourner les crêpes, mais c'est vrai qu'avec le succès des crêpes, justement, il va y avoir tout un processus de mécanisation, voire d'industrialisation des crêpes. Et donc on a différentes machines et des manèges, carrément des manèges à crêpes, là, qui vont être exposés. Alors certaines, ce sont des manèges à crêpes faites main, mais on va voir aussi un processus crêpière industriel, quoi.
Entièrement mécanisé.
Entièrement mécanisé, ouais, c'est ça. Donc on met la pâte, c'est tourné automatiquement, et puis ça ressort en crêpes, comme ce qu'on va trouver maintenant dans les plusieurs entreprises là de crêpes en Bretagne qui proposent, vous savez, toujours la formule 6 ou 12 crêpes faites main ou faites machine.
À propos de machines, je vous rappelle que nous sommes dans l'ancien moulin de Kerouat, d'où la suite de l'exposition.
Le développement des minoteries va progressivement en fait faire disparaître un petit peu les petits moulins, puisque les minoteries, ça va être une forme, j'allais dire, presque davantage mécanisée et industrialisée des moulins. et donc avec une rentabilité beaucoup plus importante. Et donc c'est vrai que on va se retrouver en fait en gros à partir des années 30, 40 à avoir une production beaucoup plus importante grâce aux minoteries. Et donc bah, les petits moulins qu'on aime beaucoup encore aujourd'hui pour leur charme bah, vont disparaître face à forcément à une loi de productivité et de concurrence quoi. Mais du coup ce qui va permettre aussi d'obtenir eh bien, des productions de farine diverses et variées beaucoup plus importantes quoi.
Il y avait combien de moulins par village en gros avant les minoteries?
Pour le canton de Cisin, on trouvait 7 moulins, mais avec une productivité qui était...
1901, Brasse-Part, 14 moulins.
Ah ouais. Ouais, donc vraiment, c'est des éléments qui habillaient le territoire.
Et ils n'étaient pas spécialisés, il y a un dans le froment, un dans le sarrasin?
Non, parce que sur un même moulin, par exemple, on peut trouver différents jeux de meules. Par exemple, on peut trouver 2 ou 3 jeux de meules. Et à partir de là, vous pouvez faire de la farine de froment, de la farine de sarrasin, quasiment en même temps.
Dans une autre maison du village de Kerouat, un intérieur réalisé spécialement pour l'exposition et qui abrite notamment les démonstrations d'un autre médiateur du musée, Christophe Le Guern, au fourneau, ou plus exactement à la cheminée.
On a donc reconstitué on a reconstitué l'espace qui était décrit avec Jacques Burel dans un de ses écrits. Et grâce aux croquis et aquarelles qu'il a pu faire, donc on a vraiment voulu refaire ce banc rond qui était souvent dans les apothèses ou les cuchetoles.
C'est les avancées des maisons,
ouais,
c'est ça?
Les avancées, ouais. Et donc ce banc rond là qui est assez typique du Léon. Donc on avait une table déjà.
Et la table était ronde?
Oui, la table était ronde dans l'apothèse, ouais. Ça dépend des formes d'apothèse, ouais. Il y avait donc de quoi mettre une table et le banc en arrondi. Des fois il y avait un lit clos. Là on a choisi de faire une cloison puisque dans la description c'est une cloison. Toujours en face de la fenêtre. Et à l'opposé donc, de cette apothèse, là, il y avait le lit.
Qui n'est pas clos, pour le coup.
Non, voilà, puisqu'on est arrivé dans les années 40, là. Et puis comme Marraine et les grands-parents de Burel, en fait, sont des gens qui venaient de Rospordin. Donc ils sont venus de Rospordin habiter dans le Léon pour travailler. Et donc ils ont apporté des meubles, on va dire, plus légers, où ils ont trouvé des choses qu'il y avait sur place. Et dans les années 40, 30-40, c'était plutôt du mobilier beaucoup plus simple comme ça, nouveau, on va dire, quoi. Et plus léger. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lit clos, en fait, dans cette pièce-là.
Au sol, c'est plus terre battue. Si, c'est terre battue.
Si, on est toujours sur la terre battue, ouais. Et donc, entre le lit et cette apothèse, là où il y a la table, ben on retrouve la cheminée, qu'il décrit très bien aussi dans le texte où il décrit vraiment l'intérieur de la maison. Et donc, c'est là que sa marraine faisait des crêpes.
Et c'est là que les démonstrations de l'écomusée ont lieu, alors?
Voilà, c'est dans cette pièce qu'on a choisi de faire les crêpes au feu de bois, puisque le foyer est un peu plus haut que les autres cheminées du village de Kerouat. Et cette cheminée est plutôt correcte, on va dire, au niveau du tirage.
Quelle est la technique pour réussir ces crêpes au feu de bois?
Alors d'abord, il faut savoir gérer le feu.
Il faut un feu, il faut des braises, il faut quand même un feu, faut...
Non, en fait, il faut plutôt des flammes. Avant de commencer, moi, je fais un feu, on va dire, assez grand. Et comme ça, bon, les braises vont s'étaler pour que ça prenne bien la surface de la pilique, puisque la pilique fait à peu près 60-63 cm.
Et elle est posée sur un trépied?
Voilà. Donc, on fait d'abord le feu. Ensuite, on étale tous ces braises-là. Après, on rajoutera du petit bois au fur et à mesure qu'on fait les crêpes pour garder une chaleur plus ou moins constante et garder de la flamme, en fait.
Et du bois de quoi, de préférence?
Alors, moi, j'utilise du bois fendu assez petit ou alors du bois de fagot. Après, on fait avec ce qu'on a, mais l'idéal, c'était le noisetier surtout, puisque c'est un bois qui flambe beaucoup. Et sinon, moi, j'utilise pas mal du bois d'ajon, du bois de lande. Et ça, c'est bien parce que ça flambe très vite. Et du coup, quand on a besoin de faire chauffer assez vite, ben, ça aide beaucoup. Donc ensuite, je mets le trépied, et puis entre la pilique et le trépied, on met ce qu'on appelle un pladen. Un pladen en breton, c'est un bout de tôle en métal qui vient entre le contenant, le chidourne ou la pilique, quoi. Pour pas que la flamme agresse trop le fond de ce qu'il y a à préparer, en fait. Voilà. Et donc pour les crêpes, on a vraiment besoin d'avoir ce pladen-là, ça chauffe un peu moins, quoi.
Avec quoi est-ce qu'on graisse sa pilique?
Du saindoux. Si c'est des crêpes beurrées, ben, ça agresse aussi automatiquement la bilic finalement. Donc comme je disais, c'est des biliques qui font 60... Celle-là fait 63 cm, celle que j'utilise. Donc on en a trouvé une qui fait 68. Donc faire des crêpes sur le feu de bois, c'est sûr que c'est une chose, mais c'est le plus dur, c'est de gérer le feu en fait. D'abord, il faut savoir bien faire des crêpes, puisque ben faut aller assez vite, parce que c'est le feu qui décide. Quand la bilique est très chaude, ben il faut pas... Ta crêpe peut rester collée dessus si tu tournes le dos trop vite, quoi. Il faut savoir vite la retourner et vite l'étaler aussi, selon comment et la température en fait. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir qu'autrefois, pour savoir comment la bilique était assez chaude, les femmes crachaient dessus.
Et si ça, c'était quoi? Il fallait que ça s'évapore
Eh ben, c'est au bruit, en fait, au son. Et moi, je le fais avec... J'ai toujours un bol ou un verre d'eau à côté de moi, et je trempe mes doigts et je gicle dessus pour voir. Parce qu'on ne se rend pas compte quand c'est trop chaud, en fait. Ça peut faire foirer la crêpe en fait.
Ouais, si c'est trop chaud, c'est pas bien non plus. On dit qu'il faut que la bilique soit chaude, mais bon en fait.
Ah non, parce que y a du feu qui est en dessous. Hein. C'est pas. Et on sait maîtriser à peu près l'intensité du feu, mais ça peut être. Et selon certains endroits sur la bilique, ça sera plus chaud que d'autres aussi. Donc c'est ça tout l'art de gérer le feu, de savoir comment placer les bouts de bois en dessous son feu aussi. Par exemple, on en mettra toujours. Bien devant le foyer, puisque la bilique vient presque au ras de la pierre de foyer. On en met toujours devant et sur les côtés, mais jamais derrière, puisque la chaleur va vers le fond, donc ça chauffe automatiquement. Toujours sur les côtés et le devant.
Le fait qu'elle soit surélevée, c'est juste pour une question de confort, quoi, pour pas être trop penché, c'est ça?
Oui, alors ça, les gens sont toujours assez intrigués avec ça aussi, mais les gens, ils commentent souvent « Oh là là, mais c'était un sacré métier, on restait courbés comme ça. » Alors certaines femmes pouvaient travailler assises, selon la hauteur du foyer et leur aisance à faire les crêpes sur la bilique. Moi, j'ai eu fait à genoux aussi, selon le foyer aussi. Et maintenant, je suis plutôt debout, penché, quoi. Mais après, on est penché quand on fait, on se redresse. Mais c'est vrai qu'on est souvent penché, parce qu'on fait le va-et-vient entre la bassine, la bilique, la table où on pose les crêpes, et toujours à surveiller le feu. Donc, il faut vraiment être accroupi à être en dessous, à surveiller le feu, quoi.
Heureusement que la maison est fraîche.
Oui, alors la maison est fraîche, mais quand on a le feu devant soi, les anciennes crêpières que j'ai pu collecter disaient, elles ont vu leur mère faire ça, elles disaient que c'était quand même c'était un peu la corvée. Hein. Les crêpes, c'était chaud devant, froid derrière, selon la saison. Et même en cette saison-là, faut pas sortir tout de suite de la maison, parce qu'il fait quand même très chaud devant le foyer. Et sortir dans le courant d'air, c'est pas bon non plus, quoi.
Et là, c'est de la crêpière qui n'était pas forcément professionnelle dont on parle, c'est ça? Parce que après, c'était un métier. Pourquoi c'était que des femmes, d'ailleurs?
Pourquoi c'était que des femmes? Bonne question. À l'époque, c'était comme ça. Le domaine, de la préparation des crêpes et de la nourriture, c'était souvent les femmes qui s'en chargeaient. Le domaine du foyer, on va dire, c'était elles qui étaient maîtres dans leur foyer autour de la cheminée. Hein, ça, souvent.
Et on termine auprès des crêpières. Mais ne vous y trompez pas quand on dit crêpière.
Alors ça y est, les professionnels.
Voilà, effectivement. Alors c'est vrai que, encore une fois, hein, lorsqu'on parle de professionnalisation, il ne faut pas non plus imaginer les crêperies comme on les connaît aujourd'hui, hein, avec sous forme de restaurant. Ça va être des femmes, effectivement, qui sont réputées, réputées pour avoir ce savoir-faire-là. Souvent, on va retrouver des femmes aussi qui se sont retrouvées à la tête d'un ménage, c'est-à-dire des veuves, par exemple, ou des femmes qui doivent s'occuper de personnes âgées ou d'enfants, et qui ont besoin de trouver un complément de revenu, quoi. Et donc, elles vont pouvoir utiliser, en fait, leur savoir-faire au niveau de la crêpe pour rapporter un petit peu d'argent à la maison, quoi.
Ce sont des poêles biliques, qu'est-ce que c'est, ces petits engins là qui sont très jolis en plus?
Ça c'est des fourneaux, on appelle ça des fourneaux à crêpes ou poêles à crêpes. Un support avec trois pieds dans lequel on pouvait faire du feu et sur lequel on pouvait placer une bilique de bord à bord juste et avec une petite cheminée. Et en fait, on pouvait faire des crêpes de façon, ambulante, quoi. Sur les marchés, sur les foires, les gens utilisaient ça.
C'est un peu l'ancêtre de ce qu'on va trouver ensuite, par la suite, avec les biliques à gaz qu'on trouvera dans tous les pardons, dans tous les fesnoses, etc.
Il y a une question qui a je ne sais pas si elle a été abordée sur qu'est-ce qu'on mettait dans les crêpes ici. Est-ce qu'il y avait une garniture ou pas ?
Alors à la base, non. Effectivement, c'est vrai qu'il ne faut pas imaginer les crêpes comme on les connaît aujourd'hui, donc avec du saumon jusqu'au fromage, jusqu'au jambon, etc. Effectivement, les crêpes, elles étaient consommées, on dirait nature, quoi.
De ce que moi j'ai entendu, c'est que quand on faisait les crêpes, on faisait le repas de crêpes, le midi souvent le vendredi, et après on faisait des crêpes pour la semaine après, pour manger. Souvent c'était des crêpes sèches, des crêpes qu'on mettait en tas, dans des genres de paniers comme on peut voir là aussi, il y avait des paniers spéciaux comme ça, parce que soit les crêpes allaient être vendues après sur des marchés ou expédiées ou vendues, ou alors les gens gardaient les crêpes pour la semaine. Et souvent, les crêpes de blé noir, les gens disent que ce n'était pas bon froid, alors on les gardait pour les tremper dans le lait ribot, dans la soupe, voilà. Et sinon, les gens faisaient ce qu'on dit le bouet de café, ou le soubenrouz. En fait, on faisait une base de soupe ou une base de café au lait, et on mettait les crêpes à tremper dedans, que ce soit des crêpes de blé noir, selon ce qu'on voulait faire, en fait, mais c'était un peu au goût de chacun.
Et puis peut-être juste un mot rapide sur tout le travail de collectage qui a été fait justement. C'est vrai que c'est dans la démarche de l'écomusée, c'était essentiel de partir de là aussi. Et il y a eu un gros travail de collectage qui a été fait pour recueillir le témoignage d'habitants du territoire sur plusieurs communes, quoi. Donc on a un panel de témoignages assez variés qui vient vraiment enrichir, je pense, le propos de l'exposition.
L'exposition de l'écomusée des Monts d'Arrée est installée pour 2 ans au musée de Carouat à Comana. On pourra donc aussi la déguster en 2021.